Alors ce matin, j'aimerais qu'on survole trois chapitres de l'Épître aux Romains. C'est chapitres 6, 7 et 8. C'est des chapitres riches, ils sont magnifiques. Et on ne peut pas vivre la vie chrétienne si on ne comprend pas un tant soit peu ces chapitres, ces trois chapitres. Et on va donc un peu survoler et prendre l'idée générale de chacun de ces chapitres. Mais on ne va pas faire 6, 7, 8, on va faire 7, 6, 8. Donc on va commencer par le chapitre 7. Et le chapitre 7, c'est un révélateur finalement du péché. Dieu nous révèle notre péché au travers de l'apôtre Paul. Il nous parle de sa propre expérience, l'apôtre. Mais en même temps, eh bien, c'est quelque chose qui nous parle. Il faut savoir qu'au commencement de l'humanité, si on remonte dans le temps, au départ, ben, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi et donc il n'y avait pas non plus de transgression, de désobéissance, puisqu'il n'y avait pas de loi. Par exemple, si vous remontez un peu dans les années 70, en France, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Donc vous pouviez rouler à 100 ou à 150 ou à 200 si la voiture vous le permettait. Et il n'y a aucun gendarme qui allait siffler pour vous arrêter parce que ben, il n'y avait pas de loi. Donc, tout allait bien. Et puis, j'imagine, il y en a qui ne se privaient pas. Ça n'empêche pas que certains roulaient d'une manière qui était criminelle et qui prenaient beaucoup de risques pour les passagers ou pour les gens à l'extérieur. Mais il n'y avait pas de loi. Alors, ben, tout allait bien et chacun se sentait libre de rouler aussi vite. Maintenant, on ne peut pas rouler à 200 km/h. Et puis, on se fait arrêter. On dit, je ne savais pas. Ah non, c'est pas possible, hein. Personne ne peut ignorer maintenant les panneaux qu'il y a sur le bord de la route. Et il en était ainsi moralement au niveau de l'humanité entière. Au commencement, Dieu ne punissait pas le péché de la même manière qu'il le punit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la loi n'avait pas encore été donnée. La seule référence au bien et au mal, au départ, c'est d'abord la première chose que Dieu a dit à Adam et Ève, « Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance ». Et puis la chose qui était universelle, c'était la conscience. Ils avaient quand même une conscience de « ça ne doit pas être bien, ça va ». Donc il y avait cette conscience du bien et du mal. Mais il y a 3500 ans, Moïse a reçu la loi. Et on peut dire que la référence aux 10 commandements, maintenant, c'est universel. Tout le monde connaît sur cette terre, pratiquement, à part peut-être quelques coins reculés en Amazonie, où il y a encore des tribus perdues. Mais sinon, pratiquement tout le monde connaît cette référence aux 10 commandements. D'ailleurs, on voit souvent Moïse qui est représenté devant les tribunaux, en statue, voilà, il a les 10 commandements. Et on voit bien la loi et les 10 commandements, c'est la référence au niveau de la morale qui peut préserver la race humaine. Et donc l'homme a aujourd'hui la conscience, et puis il a aussi cette loi qui n'ignore pas. Et on connaît cet adage, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on ne peut pas connaître toute la loi, mais on ne peut pas non plus se réfugier en disant « je ne savais pas ». Devant Dieu, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Non, on sait, on connaît la loi. Si on résume les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans les cieux, etc. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. C'est effroyable aujourd'hui ce qu'on peut entendre parfois dans les films, comment on prend le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point. Mais certains, dans ce monde, vous le savez, ils le voient comme ça, ils se disent, celui qui met en pratique, ça va, tout va bien se passer pour lui. Mais en fait, il n'y a rien de plus faux que ça. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de mettre la loi en pratique. Impossible de la mettre complètement en pratique. Et d'une manière ou d'une autre, l'homme est en échec devant la loi divine. Et si quelqu'un est très fidèle à sa femme, à côté, il va se permettre le mensonge parfois. Si quelqu'un d'autre ne vole pas, il va convoiter quand même la maison du voisin ou la femme du voisin. Si quelqu'un est très respectueux de son prochain, il ne va pas croire en Dieu. Et finalement, il va peut-être croire en lui-même et se faire ses propres dieux, qui sont autre chose. Et donc, forcément, l'homme, il se retrouve en échec à chaque fois devant la loi. Mais plus encore, la loi révèle, mais aussi elle stimule le péché. Quand il y a l'interdit, il y a envie de transgresser l'interdit. Et c'est ce que Paul dit, et on va lire un premier passage, Romains 7, versets 7 à 8. Romains 7, versets 7 à 8. Il dit, « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. » Et donc, malheureusement, la loi révèle, mais aussi stimule le péché. Pourquoi ? Parce qu'on a cette nature pécheresse qui est en nous. On a cette nature que nous avons héritée d'Adam et Ève, c'est-à-dire cette nature qui est portée à la désobéissance, portée à la transgression de la loi. Et même si on reçoit une bonne éducation, si on a quand même un sentier assez droit au regard des hommes, ben personne n'est parfait. La perfection, eh bien, on ne l'a pas. Et donc, on transgresse quand même la loi, même en étant plutôt droit parmi les hommes. Alors, il y a certains qui étouffent cette réalité, et puis d'autres qui veulent faire face à cette réalité. Et c'est ce que fait Paul. Paul fait face à ça, et regardez ce qu'il dit, verset 14, chapitre 7, verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Je suis vendu au péché. Paul n'était pas pourtant un mauvais garçon, un juif religieux, respectueux de la Torah, qui avait reçu une éducation. Mais pourtant, il regarde honnêtement sa vie et il dit « ça ne va pas ». Ça ne va pas, en fait, je suis vendu au péché. Le péché est en moi. Et il va l'exprimer clairement dans la suite. On va lire les versets 15 à 20. Il dit « car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et donc, Paul a vécu cette lutte intérieure parce qu'il voulait le meilleur. Il voulait le meilleur, il voulait exceller dans le bien, dans le bon, dans le vrai, dans le juste. Il voulait vraiment changer. Mais en étant honnête, il voyait bien qu'il n'atteignait pas ce qu'il voulait être, ce qu'il voulait faire. Il avait bien le vouloir, la volonté, je veux, mais j'y arrive pas. C'est impossible, c'est un échec. Un peu comme un fumeur qui dit « je veux arrêter de fumer, mais j'y arrive pas ». Ou bien quelqu'un qui dit « je veux arrêter d'être en colère, mais c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi ». Cette expression, déjà, elle dit beaucoup. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi, qui me domine. « Le péché habite en moi, je suis vendu au péché, le mal est attaché à moi. » Voilà les phrases, les expressions que Paul utilise. Alors certains, bien sûr, ne se soucient pas de cela. Ceux qui sont loin de Dieu, « j'ai des défauts, vous m'acceptez, je suis comme ça, c'est tout. » Mais en lisant la Bible, on voit bien vite que ce que certains appellent défaut, Dieu dit « péché ». Et c'est pas pareil. Je vois dernièrement, là, j'étais en train de parler avec quelques personnes, et c'est pas grave, c'est des défauts, on passe au-dessus. Mais Dieu dit non, Dieu dit péché. Ce sont des péchés. Alors Paul, il dit, misérable que je suis, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui a la réponse? Et il la donne dans le verset suivant, verset 25, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu parce que c'est par Jésus-Christ que vient la solution à ce conflit intérieur, cette lutte en moi contre le péché. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Il pointe le doigt vers Jésus-Christ. Il apporte la délivrance. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne le chapitre 6. On recule un petit peu, puisque Dieu, au travers de l'apôtre Paul, a commencé à donner déjà des indices, moyens d'être délivré. Mais Paul, avec le chapitre 7, vient vraiment expliquer davantage cette lutte qui était auparavant dans son cœur. Et dans ce chapitre 6, l'accent va être mis sur la mort de Jésus-Christ et la mort de celui qui vient se réfugier en lui. Jésus est mort pour chaque homme, il est mort pour chaque femme qui veut croire en lui. Et sa mort n'était pas pour lui-même, parce qu'il était un coupable, mais elle était pour nous, elle était pour les hommes, elle était pour chacun d'entre nous. Et quand il est mort, eh bien il était en train de subir notre jugement. Et c'est très important à comprendre. Jésus n'est pas mort pour lui, mais il est mort pour nous. Et celui qui place sa foi en lui, eh bien, il peut vivre une identification avec Jésus-Christ, une vraie identification, et ça change tout. Ça change vraiment tout. C'est quelque chose de spirituel, d'unique, mais de bien réel pour celui qui le vit. Dieu a jugé notre nature pécheresse sur la croix avec Jésus-Christ. Et Dieu a pris la nature sainte de Jésus-Christ et l'a placée en nous, sur nous. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il a pris notre péché pour nous sauver. Le 21 mai 1946, il y a un scientifique qui se nomme Louis Alexander Slotin. Donc c'était aux États-Unis. Et il était en train de travailler sur un cœur de plutonium. Donc ce qui donnait après, d'ailleurs ça a été une bombe plus tard qu'ils ont expérimenté. Ils étaient 7 scientifiques dans la pièce. Et il y avait ce cœur de plutonium et il devait faire une manipulation parce que c'était entouré de quelque chose qui pouvait entraîner une réaction. Et en fait, il a utilisé apparemment un tournevis. Le tournevis a ripé et il y a eu une fusion atomique, quelque chose qui s'est produit. Il a senti sa main commencer à brûler. Ils ont vu une lumière bleue dans la pièce. Et là, il a saisi le cœur et il l'a fait tomber par terre. Et la réaction s'est arrêtée. Et en faisant ça, eh bien, il a sauvé les 7 autres scientifiques qui étaient avec lui. Mais lui, il est mort. Quelques jours plus tard, il est mort dans d'horribles douleurs, parce qu'à l'intérieur, eh bien, tout était irradié. Et un homme meurt pour sauver ses semblables. Il a sauvé ces quelques personnes autour. Eh bien, Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il est mort pour nous sauver. C'est véritablement ce qu'il a fait. Et par sa mort, eh bien, il permet à quiconque le veut, quiconque croit, de vivre une identification. Celui qui croit en lui peut mourir avec lui et revivre avec lui. Et c'est ce que nous dit le chapitre 6. Regardez, chapitre 6, versets 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Comment régler cette question du péché? Comment régler la question des chutes, des dépendances, des vices, des imperfections ou des transgressions de la loi de Dieu? En mourant, Paul dit, car celui qui est mort est libre du péché. Il est libre du péché. Et c'est évident, un mort, voilà, il ne bouge plus. Il ne pêche plus. Un mort ne pêche plus, c'est sûr. Et si nous sommes morts, nous ne pêchons plus. Nous ne pêchons plus. Et Dieu a jugé dans une chair comme la nôtre la nature du péché, notre mauvaise nature a été jugée à la croix. Dieu a crucifié notre chair. C'est ce qu'il dit au verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est une première chose vraiment à comprendre, importante pour être délivré. Il faut comprendre sa mort avec Jésus-Christ. Non pas réellement, physiquement, mais spirituellement. Et ce n'est pas quelque chose qui est de notre ressort. Ce n'est pas la méthode Coué. Allez, je meurs. Non, ce n'est pas ça. En fait, il dit, Paul dit, nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême en sa mort. Notre vieil homme a été crucifié avec... C'est du passé. C'est fait. Dieu l'a fait. Le jour où nous avons cru, le jour où nous l'avons reçu, il l'a fait. Il a crucifié notre vieil homme. Il est mort. Donc c'est quelque chose que Dieu a déjà opéré en nous. Pour celui, bien sûr, qui a cru. Pour celui qui a vraiment donné sa vie, son cœur. C'est une évidence. Hein. C'est pas parce qu'on hérite quelque chose de nos parents qu'on l'a vécu. C'est évident. Mais pour celui qui s'est converti, il y a une conversion du cœur, alors c'est fait. C'est déjà fait. Et Dieu dit qu'il n'a plus à mourir, il est déjà mort avec lui, il a été crucifié avec lui. Quel est le pas suivant? Eh bien maintenant, ben consacre-toi. Consacre-toi à Jésus-Christ. Regardez verset 11 à 13, chapitre 6, verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ici, c'est la consécration. On se consacre à Jésus-Christ. Ne livrez pas vos membres, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, on offre sa volonté, on offre ses lèvres, on offre ses bras, on offre ses jambes, on offre son portefeuille, on offre sa vie, on offre ses prières, on s'offre à Dieu. Seigneur, prends-moi, vas-y, je m'offre à toi, fais de moi ce que tu veux. Choisis la direction à prendre, choisis ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. C'est toi qui dois vivre en moi, on s'offre à Dieu. Et là, eh bien, pour notre bonheur, on entre, on vit en nouveauté de vie. C'est la nouvelle vie qui se met à agir au travers de nous. Offrez à Dieu vos membres, dit l'apôtre Paul, comme des instruments de justice. Je m'offre à Dieu et je deviens instrument de justice. Et il y a une décision du cœur, une résolution. On veut faire ce que Dieu veut. Et là se produit un miracle. C'est quoi le miracle? C'est que la puissance du péché perd sa force. Parce qu'on s'est consacré, parce que eh bien, on est mort, alors le péché perd sa force. Soudain, ça tombe. Regardez verset 14. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En étant mort, mais vivant maintenant pour Dieu, le péché perd sa force. Il ne peut plus nous dominer. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que ben, la dépendance, elle est brisée. Dans l'instant, elle est brisée. Le caractère, ben, il change, il se transforme. Les passions, elles s'éteignent. Les désirs changent. Un esprit de bonne volonté nous soutient soudainement. On arrête de faire ce qu'il ne faut pas faire. On se met à faire ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu. Et il n'y avait pas d'amour, Dieu redonne de l'amour. Il n'y avait pas de patience, Dieu donne de la patience. C'est le miracle. Il y a un vrai miracle qui se produit. Est-ce que c'est définitif? Non. En fait, c'est tous les jours et tous les jours et à chaque instant et recommencer. C'est-à-dire que on peut toujours se reprendre, mais si on se consacre, alors instrument de justice et Dieu peut se servir de nous. Donc c'est chaque jour, c'est chaque matin, le chrétien se consacre et se reconsacre et garde ses pensées sur Jésus et veut faire ce que Dieu veut et le miracle se produit. Dans cette consécration, le miracle se produit. Et on arrive au chapitre 8. Merveilleux chapitre. Chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Autrefois sans Dieu, nous étions condamnés. Pourquoi ? Parce que la loi nous jugeait. La loi disait, tu ne convoiteras point, et je convoitais. La loi disait, tu ne mentiras point, et je mentais. Donc j'étais condamné, nous étions tous condamnés. Mais parce que l'on a cru, alors eh bien quelque chose a changé. Verset 1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça change tout. Être en Jésus, ça change tout. On devient son enfant. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il parle de la loi de l'esprit de vie. C'est plus la loi, la lettre qui tue, c'est la loi de l'esprit. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, eh bien on reçoit le Saint-Esprit et ça change tout. C'est ça qui change tout. C'est ce qui fait toute la différence. Il y a un explorateur norvégien qui s'appelle Roald Amundsen, je ne sais pas si je prononce bien, et il a découvert le méridien magnétique du pôle Nord. Aussi, il est descendu au pôle Sud. Et lors de ses voyages, voilà, c'était un explorateur. Hein. Lors de ses voyages, un jour, il a pris un pigeon voyageur. Et puis, quand il est arrivé au bon endroit, il a lâché le pigeon. Et le pigeon est retourné jusqu'en Norvège. Et sa femme a vu le pigeon arriver. Et là, on imagine qu'elle s'est exclamée... Mon mari est vivant, il est vivant. C'était le bonheur pour elle. Et vous savez, lorsque Jésus est monté au ciel, voilà, il est parti, il a quitté les disciples, et les disciples sont restés avec la promesse du Saint-Esprit. Esprit qui avait cette image d'une colombe. Et quand l'Esprit est venu sur eux à la Pentecôte, alors eh bien ça y est. Ils savaient, Jésus était avec eux et ils étaient dans la joie profonde, parce que maintenant l'assurance était en eux et le Fils de Dieu était en eux. Il était plus lointain, mais il était maintenant dans leur cœur. Et c'est exactement ce qui se produit pour nous, enfants de Dieu. Chaque fois que quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, il revit la Pentecôte, il reçoit le Saint-Esprit. Il y a cette joie qui descend dans son cœur. Et c'est ce qui fait toute la différence entre les religions qui sont pleines de doutes et la vraie foi qui est pleine d'assurance, pleine de conviction. Verset 2, il dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Dieu a condamné le péché, il a jugé sur Jésus-Christ, alors je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. Et verset 4, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, eh bien, on voit cette importance de marcher selon l'esprit. Et c'est ça, quand on a compris la mort de Jésus-Christ, quand on veut se consacrer à Jésus-Christ, eh bien après on apprend à marcher avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui est aussi très important dans la vie chrétienne, c'est apprendre à reconnaître, à entendre sa voix, à savoir, eh bien, voilà, on lui pose sans cesse, on lui parle sans cesse, on prie sans cesse. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Là, quelle décision prendre ? Combien de fois dans une journée, on va demander, Seigneur, voilà, hésitation, quelle direction prendre ? Et le Seigneur veut nous conduire. On apprend à marcher selon le Saint-Esprit. Verset 5, il dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Deuxième élément ici, on veut s'attacher aux choses qui viennent de Dieu. C'est ça qui veut être devant nos yeux, hein. On veut s'affectionner aux choses qui viennent du Seigneur. C'est quelque chose qui se produit parce qu'on s'est consacré. Et naturellement, on va aller vers les choses qui plaisent au Seigneur. On s'affectionne des choses de l'Esprit. Verset 6, c'est l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Ça, c'est un fruit, une grâce, hein. Quand on marche et qu'on s'affectionne à tout ce qui vient de Dieu, on a la paix, on a la vie. En fait, c'est ça le bonheur. C'est être heureux, c'est ça. L'important, c'est bien sûr d'avoir reçu cet esprit, qu'il vive en nous. Hein, et verset 9, il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et c'est intéressant que Paul souligne ici, hein, en fait, il dit « Mais il n'y a que deux sortes de personnes sur la terre, ceux qui ont reçu l'esprit, ceux qui ne l'ont pas reçu. » C'est tout. On peut couper le monde en deux, ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Et soit on l'a reçu et on le sait, soit on ne l'a pas reçu et on est encore plein de doutes. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et sans l'Esprit de Dieu, on retombe sous le coup de la loi qui nous condamne et on est perdu. Versets 10 et 11, il dit... Et si Christ est en vous, j'ai envie de dire, mais si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. Il met beaucoup l'accent, hein. Sur plusieurs fois, il répète, si Christ est en vous, si son esprit habite en vous, par son esprit qui est en vous. Voilà, il se disait, mais est-ce que tout le monde est chrétien? Je m'adresse à des chrétiens de l'église de Rome, mais est-ce que vraiment ils sont tous chrétiens? Alors, il met un point d'interrogation. Et là, c'est à chacun de se sonder. Hein, et est-ce que vous êtes sûr? Vous avez reçu l'esprit de Dieu? Parce qu'il n'y a que deux voies possibles. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vivre selon la chair, vivre selon la nature humaine, ça mène à la mort. Ça mène à la mort éternelle pour celui qui n'a pas reçu Christ. Et ça mène à une vie stérile, une vie morte pour celui qui l'a reçu. Ça mène à la mort, ça mène à rien. Mais par contre, si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, alors c'est la vie. Là, c'est la vie qui peut déborder. Vous vivrez, dit-il. Vous vivrez. Vous serez vivant. Vous serez en communion avec Dieu. Vous aurez cette vie, cette vie en abondance. C'est ce qu'il veut nous dire. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils et filles de Dieu. Avec les enfants, on lit les proverbes. Et à chaque fois, ça commence « mon fils ». Ça va bien, Joshua. Mais je dis « mon fils, ma fille ». Ah, c'est écrit « fille », oui. Enfin, Dieu voit aussi « fille », bien sûr. Hein. « Mon fils, ma fille ». Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Ils lui appartiennent. Lorsque Dieu vient habiter dans notre cœur, il y a cette douce influence, ce souffle divin, ce doux murmure qui veut nous donner la direction. Et si on se laisse conduire, Dieu dit c'est mon fils, c'est ma fille. Vraiment, ils m'appartiennent. Et la réalité, c'est que l'enfant de Dieu, il a ces deux natures. Et il y a cette lutte, l'ancienne nature, la chair, et puis cette nouvelle nature, l'esprit, qui est régénéré par l'esprit. Et c'est pour ça que la consécration est nécessaire chaque jour. Parce que si on ne se consacre pas, si on néglige de chercher une relation avec le Seigneur, de prier, de lire, de le chercher, aller vers les choses de Dieu, naturellement la chair reprend le dessus. et elle domine. Donc c'est important de se consacrer chaque jour et recommencer encore, et ça sera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pour plaire au Seigneur. C'est pour ça aussi que, malheureusement, et c'est triste, hein, mais des chrétiens font des choses qui sont indignes de l'Esprit de Dieu, indignes de la nouvelle nature qu'ils ont reçue. Combien de fois on entend, hein, voilà, des chutes, des erreurs, des... Voilà, parce que la chair, à un moment, a dominé, on l'a laissé dominer, et forcément, moi-même, vous aussi, des fois, on tombe et on fait quelque chose qui n'est pas digne de Jésus-Christ. Mais Dieu veut qu'on se consacre. Et le Seigneur, de toute façon, lui, ce qu'il vise pour nous, c'est la sainteté. Hein? C'est comme on le prêchait la dernière fois, c'est que la lumière, eh bien, aille en croissant. Hein? Dieu vise ce but et il est en train de le faire dans la vie de chacun. Mais tout se joue dans la volonté. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Est-ce que je veux vivre pour moi-même ou je veux vivre pour Jésus-Christ ? Si je me consacre et je dis, Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre, entièrement. Garde ma journée du début jusqu'à la fin. Aide-moi à faire ta volonté. Hop. L'Esprit a les coudées franches et il peut agir. Il peut se servir de nous. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Dieu est le Créateur de tous les hommes, mais il est le Père que de ceux qui le reçoivent vraiment dans leur cœur, se repentent, ils croient en Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, il nous donne l'esprit d'adoption. Nous sommes adoptés, nous devenons des fils, des filles de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu et c'est quelque chose de réel. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes en parfaite sécurité. En sécurité. Même si la vie est parfois difficile, même s'il y a des souffrances, s'il y a des combats, s'il y a des épreuves, parce que Dieu, même si on est enfant de Dieu, même si on a reçu l'Esprit de Dieu, il ne nous épargne pas tout le reste. Hein. La vie qui est le lot de tous les hommes, c'est-à-dire la souffrance. Les choses difficiles. Mais Dieu est fidèle. Il garde sa main sur ses enfants. Et ça, c'est... Merci Seigneur. Tu gardes toujours ta main sur nous. C'est une protection et c'est une grâce. Et Paul, dans la fin du chapitre 8, eh bien, va aborder cette question des souffrances. Il va parler des souffrances et de l'amour de Dieu. Les deux. Il y a les deux. Oui, nous sommes des fils et des filles de Dieu, mais nous souffrons. Nous souffrons. Regardez verset 17. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et Paul introduit ce sujet des souffrances et il va expliquer la création souffre. C'est la création entière, toute la création souffre, le monde souffre, les hommes souffrent et les chrétiens souffrent. C'est quelque chose qu'on a vu particulièrement là dans ces derniers mois, années, hein, avec tous ces chrétiens qui sont tués, égorgés dans le monde. Mais le chrétien qui est préservé de la persécution parce qu'il vit dans une démocratie, eh ben, il souffre quand même. Il vit, certes, il ne vit pas les mêmes souffrances que ses frères ailleurs dans le monde, mais il souffre quand même parce que la souffrance existe et elle est partout. Dieu ne nous épargne pas. Mais il y a quelque chose que le chrétien a et qui est vraiment précieux par rapport au reste du monde. Il y a quelque chose que le chrétien a, c'est qu'il sait que Dieu est son Père et que Dieu règne au-dessus de lui. Et ça, c'est précieux. Savoir que Dieu est au-dessus de nous. Ça signifie que tout ce qui nous arrive, tout, on n'a pas dormi cette nuit, tout ce qui nous arrive, même parfois si c'est difficile, tout est permis de Dieu. Il le permet. C'est pas sans son accord. Même si c'est une histoire de l'ennemi qui nous veut du mal et qui veut, eh bien, nous faire craquer, c'est possible, hein? Mais Dieu le permet. Dieu le permet. Et s'il le permet, c'est dans sa volonté qui est souveraine et ce n'est pas au-delà de nos forces. C'est la promesse qu'il nous fait. je veille sur vous, ça ne sera pas au-delà de vos forces, je vous le garantis. Et Paul l'exprime clairement. Il dit au verset 28, ce verset que vous connaissez, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose concourt au bien. On pourrait le dire autrement, comme Kuhn le dit, les intentions bienveillantes de Dieu, j'aime ça, les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est beau. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Même quand on souffre, il y a une intention bienveillante qui est derrière. On ne la voit pas, on ne comprend pas, mais il y a une intention bienveillante. Quelque chose qui vise à nous aider à aller plus loin, à changer notre vie, changer notre caractère, à nous transformer intérieurement. On ne comprend pas, mais on peut avoir foi qu'il y a une intention qui est bienveillante. Parce que Dieu est Dieu, parce qu'il règne, parce qu'il est souverain, parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Rien, absolument rien. Je ne sais pas si je vous avais raconté une fois, peut-être je vous l'avais dit, je ne me souviens plus. Je vois quelqu'un qui a crevé. Je me dis, oh tiens, j'ai jamais crevé. Oh, incroyable ça, hein ? Jamais crevé. Voilà, je ne sais pas combien de temps je conduis, mais j'ai jamais crevé. Oh merci Seigneur, j'ai jamais crevé. Et en rentrant chez moi, je regarde mon pneu et je vois une épine, un truc en métal, comme un clou, dans mon pneu. Et alors je le retire et j'ai pas crevé. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable quoi. Voilà, si on ne crève pas, c'est parce que bah, Dieu permet qu'on ne crève pas. Parce que bah, mille fois on peut crever. Et ça c'est pour un petit détail de la vie, mais les intentions bienveillantes de Dieu sont derrière tout ce qui nous arrive. Il garde ou il permet. Hein, des fois je fais une marche arrière, bam, je me prends comment ça s'appelle ça, une bouche à incendie. Oh là là, blah, la voiture pliée en deux. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Et puis parfois, eh bien, on souffre. Et il y a des souffrances qui sont bien plus importantes qu'une crevaison. Mais Dieu reste au contrôle. Il le permet parce qu'il vise quelque chose qui est bon dans notre vie. Jamais oublier que Dieu règne. Et ça, ça change complètement notre perception de tout ce qui nous arrive en fait. On ne voit plus la vie de la même manière. Et on est beaucoup plus confiant, beaucoup plus assuré en se disant « Bon Seigneur, ok, je sais que tu m'aimes et tu prends soin de moi. » Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit des circonstances, ce n'est pas le fruit des décisions humaines des autres. Parce que parfois on se dit « Mais je suis le jeu des décisions humaines des autres. » Parce que les circonstances sont comme cela. Non, Dieu reste celui qui contrôle. Même ce que peuvent faire les autres qui nous influencent ou qui changent nos vies. Dieu veille sur nous parce qu'il nous aime. Et là, il y a une manifestation éclatante de l'amour de Dieu avec la fin de ce chapitre de Romains 8, versets 32 à 39. Il dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui accusera les élus de Dieu ? Qui condamnera les enfants de Dieu ? qui les pourra les séparer de l'amour de Christ ? Ou bien, qu'est-ce qui pourra le faire ? Qui ou qu'est-ce qui ? L'épreuve, la tribulation, la souffrance, l'angoisse, la persécution, la faim, la mort ? Non, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Lorsque on a été adopté, c'est définitif. Nous sommes ses enfants et un jour nous serons à côté de Jésus-Christ, comme son frère, sa sœur, bien-aimée. Voilà. Pour l'éternité, nous serons avec lui. Et on peut faire confiance au Seigneur. Confiance en son amour. Il prend soin de nous aujourd'hui et il va continuer à le faire.